VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition des 18h30, temps universel de ce 12 mars 2020. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. Les initiatives en vue de la recherche d'une paix durable en Libye se multiplient. Plusieurs leaders se sont réunis ce jeudi à Brazzaville sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso. En Centrafrique, pas moins de 13 personnes ont été tuées mercredi dans de nouveaux affrontements dans le nord du pays. Des morts également signalées dans une attaque au Niger. Des mesures sans précédent pour lutter contre la pandémie du coronavirus aux États-Unis. Elles ont été dévoilées hier par le président américain. Nous ferons le point de l'épidémie dans ce journal. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. L'ex-ministre algérien des Affaires étrangères Ramdan Lamamra est pressenti pour remplacer l'émissaire de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, démissionnaire. Monsieur Lamamra, 67 ans, a été à la tête de la diplomatie algérienne de 2013 à 2017. Plusieurs fois ambassadeur, il a été médiateur dans plusieurs conflits africains, notamment au Libéria, sous les auspices de l'ONU et de l'Union africaine. Dans un communiqué mercredi soir, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la désignation de l'américaine Stephanie Turco-Williams pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un successeur à Gassam Salamé. À propos de la Libye, justement, trois présidents africains, le président de la Commission de l'Union africaine et des représentants de l'ONU et des gouvernements algériens et égyptiens, ont annoncé aujourd'hui la tenue d'une conférence des réconciliations interlibyennes en juillet à Addis Abeba. Eric Maniratiza.
Le groupe de contact de l'Union africaine a pris cette mesure conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prise en 2018. Le premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a indiqué qu'il est temps de réunir le peuple libyen pour qu'il se réconcilie. Denis Sassou Nguesso, qui a présidé cette rencontre d'Oyo, a appelé à une composition équitable de la commission préparatoire de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne inclusive devant être mise en place. À l'ouverture, le président Idriss Déby Itno a déploré que la crise en Libye ne cesse de prendre chaque jour des tournures dramatiques marquées par des ingérences militaires extérieures graves. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a estimé que la crise n'a que trop duré, précisant que depuis 2011, tout a été dit et écrit sur la Libye, même si très peu a été mis en œuvre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, également président en exercice de l'Union africaine, a indiqué qu'ils doivent être à l'avant-garde des efforts visant à rapprocher les parties belligérantes en Libye. La rencontre d'Oyo est la deuxième que le Congo abrite depuis le sommet de Berlin sur la Libye organisé en janvier. Elle intervient après la démission du représentant spécial des Nations Unies en Libye, Gassan Salamé, dont les efforts ont été loués par les présidents africains.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu ce jeudi à Alger pour discuter des questions bilatérales et régionales. Au cours d'un entretien avec son homologue algérien, Sabri Boukandoum, M. Le Drian a évoqué le dossier libyen. L'Algérie, qui partage près de 1000 km de frontière avec la Libye, s'est récemment montrée très active dans les efforts pour un règlement politique d'un conflit qui menace la stabilité régionale. Au moins 13 personnes, civiles et combattants, ont été tuées mercredi dans de nouveaux affrontements dans le nord de la Centrafrique, pays ravagé par une guerre civile depuis 7 ans. Ekia Badou.
Des combats à l'arme lourde et légère ont fait 13 morts dans la ville de Ndélé. Il y a des civils parmi les victimes, a expliqué de Bangui, un haut responsable de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, sous couvert de l'anonymat. Depuis 8 jours, des combats opposent Ndélé, chef-lieu de la préfecture de Bamingui-Bangoran, des factions d'un même groupe armé, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'une des nombreuses milices qui se partagent les deux tiers du pays. Ce groupe rassemble plusieurs ethnies, dont deux, Ronga et Goula, s'affrontent désormais pour le contrôle des territoires et des ressources. Selon la source onusienne, les combats d'hier matin, qui ont duré 3 heures, sont consécutifs à une attaque menée dans la ville par la faction Goula du FPRC. En dehors de tirs sporadiques mercredi vers minuit, le calme est revenu à Ndélé, a précisé cette source. Les casques bleus de la force de maintien de la paix de la MINUSCA ont intensifié les patrouilles, a assuré le responsable onusien.
Un tribunal de Conakry a décidé ce jeudi de remettre en liberté conditionnelle après 6 jours de détention provisoire deux responsables de la contestation en cours en Guinée contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. C'est ce que fait savoir leur avocat. Maître Mohamed Traoré, Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno avaient été inculpés d'outrage à agent, violence et voies de fait, production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. Au Niger, au moins 8 soldats sont morts aujourd'hui dans une attaque contre leur position. Les faits se sont déroulés à Yérou, ville située non loin de la frontière malienne. Les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon des sources locales, c'est à la mi-journée que des hommes armés sur des motos ont ouvert le feu sur des éléments des forces de défense et de sécurité à la sortie de la ville d'Ayérou. Les échanges de tirs ont duré plus d'une demi-heure avant que les militaires nigériens ne repoussent les assaillants qui ont pris la direction de la frontière malienne. Selon toujours ces sources, au moins 8 soldats ont été tués, des blessés ont également été enregistrés ainsi que des dégâts matériels. Aucune source officielle n'a pour l'instant confirmé ce bilan. La localité d'Ayérou, située à 180 km de la capitale Niamey et à quelques kilomètres de la frontière malienne, a été plusieurs fois attaquée par des hommes armés. Au mois de février dernier, 3 policiers ont perdu la vie dans 2 attaques en l'espace d'une semaine. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du nouveau coronavirus poursuit sa progression dans le monde avec plus de 1100 cas, autant pour moi. Les États-Unis ont annoncé une interdiction d'entrée du territoire pour les voyageurs en provenance d'Europe. Redoutant une récession, les marchés financiers subissent de fortes baisses malgré le fait qu'en Chine, on note une baisse des contaminations. Claire Morin-Gibourg.
Le président américain Donald Trump a défendu aujourd'hui sa décision de suspendre l'entrée des voyageurs en provenance d'une partie de l'Europe sans prévenir les dirigeants européens, en expliquant que cela aurait pris trop de temps. Cette décision, couplée à différentes mesures de protection, a fait paniquer les marchés financiers qui redoutent l'impact sur l'économie mondiale. Les cas de Covid-19 se multiplient inexorablement en Europe, avec notamment une explosion des cas en Espagne. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti sur le risque élevé de voir la capacité des systèmes de santé européens dépassée face à cette pandémie. En revanche, en Chine, point de départ de l'épidémie, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a chuté jeudi à 15, au plus bas depuis la mi-janvier. Après avoir qualifié hier la propagation du virus de pandémie, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenté de rassurer en affirmant que cette pandémie était maîtrisable.
Et puis le Capitole, le siège du Congrès américain à Washington, va fermer temporairement ses portes aux touristes à partir de ce soir jusqu'au 1er avril par mesure de précaution. C'est l'annonce faite par les responsables de la sécurité, tandis qu'un premier employé a contracté le coronavirus. Et puis l'Iran a appelé jeudi à la responsabilité du Fonds monétaire international à qui, de manière très exceptionnelle, Téhéran dit avoir demandé de l'aide face au COVID-19 qui touche désormais officiellement plus de 10 000 personnes dans le pays. Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus au Royaume-Uni se situe probablement entre 5 000 et 10 000 personnes, a estimé jeudi le gouvernement annonçant de nouvelles mesures pour contenir la pandémie. Et puis la traditionnelle réunion annuelle des ministres des Finances et banquiers centraux de 7 pays les plus industrialisés se tiendra par par visioconférence à la mi-avril. Épidémie de nouveau coronavirus oblige. C'est ce qu'annonce le Trésor américain dans un communiqué. La réunion devait initialement se tenir à Philadelphie, sur la côte est des États-Unis, à l'invitation de Washington, qui détient la présidence tournante du G7 cette année. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle avec Nanit Talani.
L'Égypte sollicite un soutien international et l'implication des tribunaux du Soudan contre l'Éthiopie dans le but de l'empêcher de commencer le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne avant la conclusion de l'accord final sur les règles de remplissage et de fonctionnement. Selon Reuters, l'Égypte demandera aussi à des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis d'arrêter ou de suspendre leurs investissements en Éthiopie. Les banques Afreximbank, UBA et BGFI veulent racheter une partie de la dette du Congo pour l'aider à atteindre les objectifs fixés dans le programme des réformes macroéconomiques du FMI, selon le magazine Ici Brazza. Cela devrait aider Brazzaville à exécuter son programme avec le FMI. Nous avons proposé une décote à la dette du Congo pour que le pays ouvre une nouvelle dette afin de lui permettre de financer son économie, a affirmé le président de la BGFI Bank, Henri-Claude Oyima, cité par Ici Brazza. Pour terminer, l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale est difficile à prédire, a affirmé ce jeudi le porte-parole du FMI, soulignant que cela dépendrait du degré de la pandémie et des réponses apportées par les pays touchés. La croissance mondiale en 2020 sera inférieure à celle de l'an dernier, mais à ce stade, il est difficile de prévoir de manière évidente dans quelle mesure elle va diminuer en raison de l'incertitude entourant la propagation du coronavirus. La semaine dernière, le FMI a annoncé que 10 milliards de dollars peuvent être prêtés à un taux zéro aux pays pauvres et en développement touchés par le coronavirus.
Et Yacouba Ouidraogo nous a retrouvés, comme toujours, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
La CAF maintient toutes ses compétitions malgré la propagation du Covid-19.
Oui, l'instance africaine du football a indiqué dans un communiqué qu'elle suit de très près l'évolution du coronavirus à travers le monde et sur le continent. La CAF a affirmé qu'au regard du fait qu'aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque, elle maintient la programmation de toutes ses compétitions. La CAF dit respecter les mesures de restriction prises par certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos. S'agissant du CHAN 2020, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars au Cameroun. La compétition est maintenue aux dates prévues du 4 au 25 avril 2020.
Ici aux États-Unis, la NBA, elle, suspend sa saison.
Ainsi en a décidé la Ligue nord-américaine de basketball après que le pivot français du Utah Jazz, Rudy Gobert, a contracté le coronavirus. En plus de l'effectif du Jazz, les joueurs des équipes que Utah a affrontées au cours des 10 derniers jours ont dû se mettre en quarantaine. Ce sont les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors. Les joueurs des Raptors ont subi des tests de coronavirus par précaution et leur franchise leur a demandé de se mettre en quarantaine pour les 14 prochains jours. La saison régulière devait se poursuivre jusqu'au 15 avril avant des playoffs menant au final prévu début juin. Ces 4 matchs sur 6 se sont déroulés la nuit dernière. Sacramento, New Orleans comme Oklahoma City, Utah n'a pas eu lieu car un des arbitres a officié lundi lors du précédent match du Jazz.
Enfin, Yacouba, la flamme olympique allumée sans spectateurs.
Oui, sur le site des premiers Jeux olympiques de l'Antiquité à Olympie, l'actrice Zanti Georgios a allumé la flamme olympique pour les JO de Tokyo de manière traditionnelle grâce aux rayons du soleil. Seul hic, pas de spectateurs à cause du coronavirus. La Grèce a annoncé son premier mort dû à l'épidémie aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire, une femme a débuté le relais de la flamme olympique. Il s'agit d'Anna Korakaki, championne olympique de tir au pistolet. L'athlète grec a ensuite transmis la flamme à Mizuki Noguchi, championne olympique japonaise du marathon lors des JO d'Athènes en 2004. La flamme sera acheminée jusqu'au Japon pour la cérémonie d'ouverture des Jeux à Tokyo le 24 juillet, face aux doutes émis sur l'opportunité de maintenir les JO à cause du coronavirus. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a jugé une annulation impensable.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lydon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par la Guinée. Après 10 jours d'audit du fichier électoral, les experts de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont remis leur rapport à la commission électorale guinéenne. Les trois experts de la CEDEAO préconisent, entre autres, d'écarter du fichier électoral 2,4 millions d'électeurs sans pièces justificatives qui y figurent. Pour en savoir plus, Yakuba Ouidraogo a joint Aboubakar Kondé, rédacteur en chef de Savary FM, notre station partenaire en Guinée.
La première recommandation, il parle de retirer de la liste l'ensemble des électeurs qui comportent une erreur sur leur date de naissance. Ils sont au nombre de 93 électeurs. Ensuite, comme deuxième recommandation, ils estiment que des cas d'enregistrement multiples, notamment les doublons, la mission a proposé qu'il y ait une nouvelle validation de ces cas de doublons et ensuite que la CENI fasse le travail pour dédoublonner un peu ces 38 282 potentiels enregistrements. Ensuite, comme troisième recommandation, il y a beaucoup d'électeurs qui ont eu des cartes multiples. Il y en a des électeurs qui ont eu 4 cartes d'électeurs, il y en a qui ont eu 3. Donc, la mission a recommandé qu'il y ait des listes de radiation qui empêcheraient ou limiteraient l'usage de ces cartes de façon multiple, c'est-à-dire qu'une personne ne puisse pas voter plus d'une fois. Et en dernier ressort, vous savez qu'il y a des chiffres qui font perdre le sommeil à beaucoup de concurrents, notamment le cas de 2 438 992 électeurs. La mission de la CEDEAO demande que ces 2 millions-là soient automatiquement retirés des listes électorales parce que simplement, ces personnes-là n'ont aucune pièce justificative dans leur enregistrement.
Alors, la CEDEAO a fait ces recommandations-là. Quelle est la suite?
Aussitôt que la CENI a reçu cette recommandation, elle s'est retrouvée et à l'unanimité, la plénière a adopté l'ensemble des recommandations de cette mission d'audit. La CENI se dit disposée à retirer de ce fichier électoral les 2 438 993 électeurs, mais également de radier les 93 électeurs qui comportent une erreur sur leur date de naissance.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle date d'élection dans les jours à venir?
Le président de la CENI le disait, maintenant, ils veulent aller plus vite, bien et vite. Donc, la CENI est encore pour une autre plénière pour essayer de voir aujourd'hui quelle est la possibilité aujourd'hui pour rentrer en action et finir avec ces différents problèmes qui sont évoqués et aller maintenant pour fixer une date. Parce que si on finit avec ce travail-là, on se retrouve maintenant avec 5 millions d'électeurs sur le fichier électoral et qui semble être du coup de beaucoup de candidats, même si du côté de l'opposition républicaine, on estime encore que les 5 millions-là, ça n'est de trop et ils estiment qu'on doit être sous la barre de 4 millions et quelques électeurs.
Comment les Guinéens réagissent à ces différentes recommandations qui ont été faites à l'égard du fichier électoral?
Les opposants, ceux qui étaient contre ces élections-là, se tapent la poitrine parce qu'ils disent que ce rapport vient conforter leur position, vient justifier pourquoi ils sont retirés. Et beaucoup accusent aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante qui semblait dire à l'époque que le fichier ne souffrait d'aucune contestation, alors que du côté de la mouvance, on estime que ça ne justifie pas le retour dans la course des anciens partis, notamment l'UFDG, l'UFR et le BN, de revenir dans la course. Pour l'instant, les Guinéens sont attentifs, ils observent. Il y en a qui disent que c'est un non-événement, il y en a qui se félicitent.
Aboubakar Kondé, rédacteur en chef de Savary FM, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Savary FM, Soleil FM et Gangan FM.
La situation sécuritaire reste tendue à un Délé, théâtre depuis une semaine de violents affrontements intercommunautaires. Pas moins de 13 civils et combattants ont été tués. On enregistre également de nombreux blessés et des dizaines de maisons incendiées. À Bangui, le gouvernement a appelé à la retenue et met en garde les instigateurs de ces violences. Je vous propose de suivre Ange-Maxime Kazaghi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, au micro de Félix Yepassi Zembro.
Il faut d'abord remonter à l'origine même de ces affrontements intercommunautaires entre les Runga d'une part, qui sont majoritaires dans le FPRC, et les Goula aussi, qui sont minoritaires. Pour les Goula, Abdoulaye Hissène, il est Mirunga, et Nourdine Adam, d'origine soudanaise darfourien, mais qui a été adopté. Et ils ont récupéré le FPRC pour s'enrichir et détourner même le FPRC, dont le président est Michel Dokoudia, de sa vocation consiste à faire la paix maintenant. Eux, ils veulent continuer la guerre parce que si la paix revient, la justice risque de les rattraper. Pour preuve, ils continuent à recruter et à importer des armes. Et les Goulas ne veulent rien savoir de leur démarche. Pour les Goulas, ils sont contre l'invasion des mercenaires étrangers que les Rungas utilisent.
On sait que les Rungas sont soutenus par le FPRC et les Goulas sont soutenus par quel groupe armé?
Dans le FPRC, par exemple, vous trouverez et les Rungas majoritaires et les Goulas. Les Goulas sont majoritaires dans le RPRC dirigé par Jono Abba.
Quelle est l'autre branche armée qui combat le FPRC, Andélé?
Andélé, le groupe armé qui combattait le FPRC, c'est le MLPJ, qui compte majoritairement les Karas, les autochtones de Birao. Parce qu'ils estiment que le FPRC n'est pas autochtone de Birao. Et puis le FPRC lutte pour les dominer sur leur propre terrain. Ces Karas-là sont mécontents. Ils disent qu'ils veulent que la paix revienne. Pour la paix, il faut combattre Abdoulaye Hissène, qui est le chef, en quelque sorte, comme le chef d'état-major.
Peut-on avoir une idée du bilan des affrontements de ces derniers temps?
Le bilan, quand on appelle, les gens disent qu'ils continuent de retrouver des cadavres. C'est pas facile parce qu'eux-mêmes, ils sont en insécurité. Parce qu'à tout moment, ça peut crépiter. C'est vrai qu'il y a un calme relatif, mais qu'il y a de l'électricité dans l'air. Au moment où on échange avec eux au téléphone.
On peut retenir qu'en ce moment, il y a une légère accalmie, un délai.
Il y a un calme relatif. Même le sultan de Birao est à Bangui pour demander à ce que les autorités centrafricaines envoient un effectif en renfort pour soutenir les Fatahs qui sont déjà là-bas sur le terrain.
Du côté de la ministère, il y a eu mort d'homme.
On a retrouvé le corps d'un employé de la ministère qui anime l'antenne de la ministère de Ndélé. Et même les belligérants ont monté la population contre la MINUSCA. Il a fallu beaucoup de sensibilisation pour qu'ils reviennent au bon sentiment.
Ange-Maxime Kazaghi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, joint à Bangui.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Le mois de janvier a été le plus meurtrier dans l'est de la République démocratique du Congo depuis juin 2017, avec 210 morts parmi les civils selon un rapport du baromètre sécuritaire du Kivu qui met en cause la capacité de l'armée régulière à faire face aux groupes armés. Idi Sango a joint le point focal du baromètre sécuritaire du Kivu à Beni, Jacques Bourassa.
Actuellement, depuis le début de l'année, il y a une sécurité dans toute la zone, et toute la zone de Beni, et l'activisme de Zambier qui se sont accentués beaucoup plus sur la zone de Beni et du côté de Mangina, c'est qu'on a enregistré beaucoup plus de morts. Et du côté de l'activisme des groupes armés, plusieurs groupes armés, les NDC, les Mazembe, les SPP, qui parfois font des attaques contre les postes de police, mais aussi contre les cas militaires des FARDC. Et c'est qu'il faut que ces affrontements-là soient toujours suivis des cas de mort que nous enregistrons. Pour la ville de Beni et la ville de Butembo, c'est beaucoup plus la criminalité urbaine qui s'accentue aussi dans les deux villes, dans le Grand Nord ici, mais aussi la ville de Goma et Bukavu. Ça fait que le nombre de civils que nous chaque jour a pu augmenter depuis le début de cette année.
Vous parlez en fait de 210 civils qui ont été tués depuis janvier. Pourtant, depuis fin octobre de l'année dernière, l'armée congolaise mène des offensives dans l'est de la RDC. Vous pensez qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des civils? Qu'est-ce qui manque?
L'armée mène des offensives des positions rebelles des ADF dans la profondeur, alors que sur la route, dans les grandes agglomérations, ce sont les ADF qui opèrent matin-midi, à côté même de quelques cas de la munition. Et pas crainte d'être contredit, l'armée n'a pas été en mesure de protéger la population. La munition n'a pas été en mesure de protéger la population, ce qui fait qu'on a arrêté plusieurs cas pendant que les efforts étaient en train d'affronter les ADF dans la profondeur. Et sur les agglomérations, il y a une de Beni et Mangina et même une partie territoire de l'Ituri, a été attaqué beaucoup plus par les ADF qui s'est manifesté dans les assassinats de paisibles citoyens dans cette.
Mais qu'est-ce qui explique les regains de l'activisme des groupes armés en ce moment?
D'abord, le fait que l'armée a beaucoup plus communiqué sur le lancement des armes. L'armée a sensibilisé beaucoup plus sur le lancement des opérations et les groupes armés se sont préparés. Selon les informations, alors les plus grands groupes armés à zone de Béni, qui est à l'est, a migré vers l'ouest. Et là, c'est un présentier à rester uniquement à l'est, alors que les Indiens ont migré à l'ouest, là qu'ils ont fait beaucoup plus de massacres.
Vous dites aussi que c'est question de manque de logistique.
Je ne dirais pas ici parce qu'on a déjà dénoncé depuis longtemps qu'il y a des commandants qui sont restés beaucoup plus dans la zone et qui sont devenus des commerçants, des cacao, dans les bois, et puis les trafics par rapport à la frontière, si je parle de même. Il y a eu relèvement de troupes, mais certains commandants sont restés dans la zone.
Jacques Boisa, point focal du baromètre sécuritaire d'Ikivu à Béni.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le combat pour l'égalité. Plus de 100 ans depuis que la Journée internationale des femmes a été célébrée pour la première fois. Je suis de la génération Égalité, levez-vous pour les droits des femmes est le thème de cette année. L'occasion pour nous de faire le point sur les avancées dans les domaines politiques, économiques et sociaux, mais aussi les obstacles, le chemin encore à parcourir pour arriver à l'égalité. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé des mesures sans précédent face à l'épidémie du coronavirus. Les voyageurs ayant récemment séjourné en Europe sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Pour un mois, les citoyens américains, eux, seront mis en quarantaine. Cette décision a profondément choqué les autorités européennes et a fait plonger les bourses. Claire Morin-Gibourg.
Avec plus de 1300 cas et au moins 38 décès aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé hier soir une réponse sans précédent.
Nous allons suspendre tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pendant les 30 prochains jours. Les nouvelles règles entreront en vigueur vendredi à minuit.
L'interdiction de voyager aux États-Unis ne s'applique pas à la Grande-Bretagne ni à l'Irlande. Les citoyens américains de retour d'Europe seront mis en quarantaine, a précisé Mike Pence ce matin. Une décision justifiée par le vice-président américain par le nombre alarmant de cas en Europe.
Des dizaines de milliers de personnes se rendent chaque jour aux États-Unis depuis l'Europe. 70% des nouveaux cas dans le monde se trouvent en Europe et une trentaine de contaminations que nous avons ici peuvent être attribuées à des contacts avec l'Europe.
L'Union européenne a fustigé aujourd'hui la décision de Donald Trump car cette mesure risque de peser lourdement sur l'économie. La Banque centrale européenne a présenté une série de mesures pour calmer les marchés financiers et soutenir l'économie. Partout dans le monde, les marchés boursiers ont subi de lourdes pertes. À New York, la panique était telle que les échanges ont été suspendus pendant 15 minutes après l'ouverture à Wall Street. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé aujourd'hui à Genève que cette pandémie du nouveau coronavirus est maîtrisable avec une surveillance robuste pour briser les chaînes de transmission.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
la fin de cette édition mise à l'onde de par Cheikh Thiro. Zoniak était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.